Un pasteur pose la question suivante à un jeune étudiant en théologie qui était venu faire un stage chez lui. Il dit, quelle est la première parole du Christ? Et là, il y a une petite lueur dans l'étudiant en théologie. Il dit, bon, c'est une question. Il commence à réfléchir, réfléchir, et puis tout à coup, il sort, maman. Bon, c'était pas ce qu'attendait le pasteur, bien sûr, mais peut-être que, probablement que c'était sa première parole à Jésus, mais on voit dans Jean, au chapitre 1, cette première parole de Jésus qui nous est transmise par l'apôtre au verset 35. Jean-Baptiste vient de rendre témoignage à Jésus. Et le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La première parole de Jésus, transmise par Jean, c'est une question. Que cherchez-vous? On peut traduire aussi par que désirez-vous? C'est une question que je vous pose ce matin. Que Jésus nous pose ce matin, parce que c'est la question fondamentale. Il commence son évangile, Jean, comme ça. Que désirez-vous? Qu'êtes-vous venu chercher? Que cherchez-vous? Est-ce que vous cherchez vraiment ce que vous devez chercher pour votre vie? Et la réponse des disciples, elle est un peu déconcertante. Il dit. Ils répondent, Maître, où demeures-tu? Et il semble qu'à première vue, ils soient passés à côté de la question de Jésus, qui était une question beaucoup plus profonde que ça. Que cherchez-vous? Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que, comme l'étudiant en théologie, là, ils ne sont pas passés à côté de la question de Jésus. Ils sont rentrés dans le vif du sujet. Où demeures-tu? Où habites-tu? Et on les voit, Jésus leur dit, ben venez et voyez. Et ils passent la journée avec Jésus et on sait qu'ils vont passer 3 ans avec Jésus. Et en fait, ils passeront le reste de leur vie avec Jésus. Que désirez-vous? Est-ce que vous désirez passer du temps avec Jésus? L'écouter, lui parler, le suivre partout où il vous amène. David le dira de cette manière, mon cœur désire une chose, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je crois qu'on, si on posait la question, et si on vous pose la question franchement, on vous demande qu'est-ce que tu désires, on répondrait tous, ben, je désire être heureux, quoi. Je ne demande pas grand-chose. Je demande juste être heureux. Mais c'est auprès du Seigneur que se trouve notre joie. Il n'y a pas d'autre endroit où trouver cette joie-là. La parole que j'ai choisi de partager avec vous ce matin se trouve dans Jacques, au chapitre 1. On va la lire, versets 1 à 18. Jacques, chapitre 1, versets 1 à 18. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, bonjour. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, il est semblable à au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. La joie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous, parfois vous n'arrivez pas à avoir cette joie-là, une joie miraculeuse, une joie saisissante qu'on trouve dans la Bible? Et peut-être que, en tout cas, moi, ma frustration vient du fait que je la cherche trop souvent au mauvais endroit. Si vous croyez qu'un bon travail, une famille merveilleuse, une santé de fer peut vous procurer cette joie, eh bien, vous vous trompez complètement. Si vous pensez faire le tour du monde et visiter les plus beaux endroits de la terre en compagnie des personnes que vous aimez peut vous donner accès à cette joie, ben vous vous trompez. Et je dirais à des enfants, si vous pensez que demain, allez, je vous dis, demain vous allez passer 3 jours à Disney, ça peut vous procurer cette joie-là, ben vous vous trompez. Oui, certes, il y a de la joie, il y a une expression de joie, mais ce n'est pas de cette joie-là dont nous parle Jacques, dont nous parle Pierre, dont nous parle Jésus. Il commence à dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Il dit aussi, considérez comme un sujet de joie. Il nous invite à changer nos perspectives, changer notre regard sur le monde, sur notre vie. Et ce n'est pas seulement qu'il nous invite, mais il nous commande de le faire. Et il est en train de parler là à des juifs dans la dispersion. En fait, ce sont des juifs qui n'habitent pas en Israël, qui sont partout en Asie mineure, à Rome, un peu partout en Grèce, et qui sont au sein des églises. Et ces juifs-là sont persécutés par leurs propres frères, par leurs propres frères et sœurs, par leur propre famille. Imaginez, c'est comme si un musulman en Algérie ou au Maroc donne sa vie à Jésus. C'est difficile, vous savez, pour des gens dans ces conditions-là, de donner leur vie à Jésus. Ils peuvent même perdre leur propre vie, je pense physique. Mais c'est un petit peu dans ces conditions-là qu'étaient ces juifs qui avaient rejoint l'Église, qui avaient accepté Jésus-Christ pour sauveur. Quand Jacques dit « considérez les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés comme un sujet de joie », pas seulement un sujet de joie, mais il dit un sujet de joie complète ou parfaite. Moi, à mon avis, Jacques, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît pas ma vie. Et quand on me parle comme ça, si quelqu'un me parle comme ça et que je suis dans l'épreuve, je dis, mais ça m'offense. Ça m'offense. C'est quelque chose qui est brutal. Et vous verrez que Pierre commence sa lettre aussi d'une manière aussi brutale. C'est la joie. Il commence comme ça. Vous êtes dans l'épreuve, soyez dans la joie, mes frères. Jésus dira dans les Béatitudes, soyez joyeux, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Et il dira à ses disciples, oh, vous verrez avec moi, vous aurez des centaines de frères et de sœurs, si vous avez plus de frères et de sœurs, et des persécutions. Et des persécutions. Jacques connaît ses interlocuteurs, il s'agit de ces juifs qu'il connaît bien. Vous vous souvenez du vol Air France 447 Rio-Paris qui s'est écrasé dans l'Atlantique? On a retrouvé les boîtes noires il y a assez récemment, il y a 2 ans je crois. Hein. C'était intéressant, en fait, en analysant les boîtes noires, ils se sont aperçus que le pilote était sorti du cockpit, il avait laissé là son copilote avec c'était le pilotage automatique. Et puis l'avion est arrivé dans un orage, un terrible orage. Et puis tout à coup, les lumières sont mises à clignoter partout sur les panneaux lumineux. Et le pilote est rentré à ce moment-là. Et puis il y avait une conversation. Et il disait, allez, monte, 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 monte. Alors, et il tirait le manche à balai à fond. Et puis en fait, dans la réalité, c'est que l'avion était en train de descendre, 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 descendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le fuselage de l'avion, il y avait des capteurs. Et ces capteurs, parce qu'ils ont été gelés probablement, ou enfin, ils étaient en panne, ce qui fait que toutes les engins de mesure de l'appareil ne comprenaient plus rien à ce qui se passait. Il disait que l'avion était en train de monter alors que l'avion était en train de descendre. Il disait que l'avion avait de la vitesse alors que l'avion n'avait pas assez de vitesse, il était en train de décrocher. Et finalement, l'avion s'est écrasé sur l'Atlantique à plat et il s'est désintégré comme ça, à plat. Tout ça pour vous dire que, en fait, dans la réalité, notre monde ne reçoit pas les bonnes informations. Jacques Rémy nous parlait des informations qu'on reçoit et on se dit « mais qu'est-ce qu'il arrive ?» Dans quel monde on est? Dans quel monde on vit? Notre monde est incapable d'interpréter les informations qui lui arrivent. Et parfois, nous avons beaucoup de difficultés à interpréter les informations qui arrivent dans notre vie, dans nos propres vies. On peut chercher l'information, mais on n'en comprend pas. Pourtant, l'information se trouve quelque part. Et ce quelque part, c'est auprès du Créateur. Le texte a été cité par Jean Simon. Cette information se trouve auprès de Jésus. La création a été faite par lui, pour lui, en lui. Toutes choses ont été faites pour Jésus-Christ. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 16. David avait bien compris cela. C'est pour ça qu'il est appelé l'ami de Dieu. Avec une vie un peu dépravée que la vie de David. Et pourtant, il avait compris bien des choses sur Dieu. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. » C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé vois la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il faut choisir la joie, mes frères et sœurs. La joie, c'est pas une réponse naturelle à une bonne nouvelle, comme on va à Disney demain ou on va faire le tour du monde avec les copains. Non. La joie, c'est un fruit de l'Esprit-Saint. C'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Qui ne dépend pas d'une réussite aux examens, qui ne dépend pas d'une victoire dans le sport. La joie, ce n'est pas un réflexe aux circonstances, mais un moment miraculeux dans un monde qui est sombre, un monde qui est mourant, mais un moment où se révèle la présence de Jésus-Christ, la présence du Créateur, la présence du Sauveur du monde dans nos vies, et parfois au travers de notre vie. Et cette joie, elle n'est pas comme ça, elle naît d'une relation avec Jésus. Un jour, on demandait à un théologien qui était sur un panel, on lui demande, mais, qu'est-ce que vous direz lorsque vous verrez Jésus-Christ? Et lui, il est là, tout à coup, il était bloqué, complètement bloqué. Et puis tout à coup, il dit, après que cette parole lui est venue du Seigneur, il dit, on ne s'est pas déjà rencontrés. Eh oui, c'est cette joie-là d'avoir fait la rencontre avec le Sauveur du monde, avec mon Sauveur. Paul et Silas, dans Acte 16, croupissent au fond d'une prison, sale, humide, probablement avec des vapeurs d'urine et d'excréments. Et puis comme ça, dans la nuit, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à louer le Seigneur. Qu'est-ce qui les anime? Et en louant le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Un ange leur apparaît, les portes de la prison s'ouvrent. Quelque chose d'extraordinaire dans la louange. Nous n'avons pas été conçus pour la dépression. On n'a pas été conçus pour critiquer. On n'a pas été conçus pour le commérage ou l'amertume. Nous n'avons pas été conçus pour bouder notre conjoint ni pour créer des conflits dans l'Église. Ou hurler de colère sur nos enfants, non, on n'a pas été conçu pour ça. On a été conçu pour la joie. Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est cette joie qui fait naître dans le cœur des esclaves africains aux États-Unis des magnifiques gospels qu'on chante. Les Negro spirituals, comme on dit, avec des paroles pleines d'espérance sur une patrie qui nous attend. Et ces chants merveilleux ont été conçus, ont été composés sous l'oppression et sous les coups de fouet, parce que ces chrétiens avaient en vue la joie de leur salut en Jésus-Christ, et uniquement cette joie-là. Et que leur délivrance, elle n'allait pas venir dans cette existence, mais leur délivrance, elle allait venir à travers la mort. C'était ça leur espérance. Pas de mourir, mais d'avoir le salut. C'est cette joie que j'ai vue un matin dans le cœur de ma sœur Tarsis, qui, en mettant la moitié de son premier salaire, s'est levée de sa chaise roulante en disant « Dieu m'a tout donné ». Ouais. C'est cette joie-là que j'ai vue quand ma belle-sœur Marie, à la mort de sa fille Élise, a dit « J'ai encore 3 filles et je choisis le bonheur plutôt que le malheur ». Et c'est cette joie-là que j'ai vue dans mon frère Jean-Pierre et Rosa, qui étaient là un dimanche à chanter les cantiques alors qu'ils avaient perdu leur maison qui avait brûlé. Ça, c'est la joie qui nous vient d'en haut, la joie qui nous vient du Saint-Esprit. Il nous faut choisir cette joie-là, frères et sœurs, et ne poursuivre que cette joie-là. Il n'y a pas d'autre joie qui soit valable à poursuivre. C'est cela la vérité dans l'épreuve. Nous pouvons avoir de la joie indépendamment des traumatismes et des tragédies, parce qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de la présence de Jésus-Christ, de la présence de notre Dieu. Le psaume 27 dit ceci, encore un psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et m'élèvera sur un rocher. Alors c'est vrai, la joie, elle surmonte la tristesse, mais elle ne l'ôte pas. Elle ne l'ôte pas entièrement, tout au moins. Elle ne nous dépouille pas de notre fragilité humaine, cette joie-là. Je sais que Tarsis souffre de son handicap et que Richard et Marie ont une petite boîte avec un couvercle qui s'ouvre de temps en temps où il y a plein de douleurs. Pierre nous le dit comme ça. Dans sa première épître, au chapitre 1, versets 3 à 9, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et vos souffrances, frères et sœurs, et pour les autres dont j'ai été les témoins de vie, et la manière dont vous les surmontez, sont un sujet de joie pour moi et pour l'Église. Il faut demander à Dieu cette joie-là. Et est-ce que c'est facile? Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile dans l'épreuve que de dire « Je veux ta joie, Seigneur ». C'est pas facile. C'est pas facile face au découragement, à la dépression. Parfois, on sait pas quoi faire. Il y a un psychiatre qui s'appelle Scott Peck qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » que je vous conseille, qui a été écrit dans les années 70. Et à travers l'écriture de ce livre, ça l'a mené à Jésus-Christ. Et il dit, et c'est un livre qui parle beaucoup de la dépression, et il dit la première chose, son premier chapitre, ça s'appelle « La discipline ». Vous savez, quand on ne peut plus rien faire, quand on est dans une dépression profonde, il n'y a qu'une chose, un mot qui sert encore, c'est la discipline. Alors, la discipline, ben oui, quand je vous parle de la discipline du chrétien, ouvrez vos Bibles, lisez-la, méditez-la. Ce n'est pas facile quand on est dans le découragement total. Ça, c'est pour ça qu'on parle de discipline. Priez votre Seigneur. Oh, je ne peux plus prier, j'ai plus la force de prier. La discipline, priez. Je suis médecin, je fais des ordonnances. Et là, c'est une ordonnance pour la dépression. 3 fois par jour, ouvrez votre Bible, méditez-la. Et priez. Et demandez au Seigneur qu'il vous ouvre les yeux. La discipline. Quand on ne peut plus, on peut juste se discipliner. Quand on ne sait pas pourquoi on lit la Bible, on peut juste se discipliner et demander à Dieu qu'il fasse que cette écriture, non pas se fasse comprendre à nous, mais nous transforme. L'écriture, elle nous transforme. Lisez la Bible non pour l'information, mais pour la transformation. Le prophète Jérémie, celui qui écrivit les Lamentations, dit aussi « Ta parole est pour moi une joie et un délice pour mon cœur. » Alors, ça c'est une ordonnance. Et un coach, c'est un petit peu ça, le coach, quand ce coach sportif, il vous dit, il vous donne un programme à faire, il vous dit « Voilà ce qu'il faut faire, tu vas faire pour la course à pied, tu vas t'entraîner, tu vas faire autant de kilomètres par jour, tu vas faire des fractionnés, aujourd'hui tu vas courir autant. » Alors, le coach peut vous donner des informations, des conseils pour traverser l'épreuve et gagner la course. Mais il est incapable de vous transférer sa force. Seul Dieu peut le faire. Et Dieu, lui, il est capable de vous transformer, de vous donner sa force par l'Esprit Saint qu'il nous donne au travers du sacrifice de Jésus-Christ que nous avons célébré tout à l'heure. Nous avons une mission, frères et sœurs, et cette mission, c'est offrir la joie au monde. Nous sommes des artisans de joie pour ce monde. Et ce que Jésus fut à Israël, c'est-à-dire le Messie, eh bien, c'est ce que l'Église est au monde. Apporter la joie au monde. Notre rôle, à travers la joie qui nous a été donnée, qui nous a été transmise, c'est de guider ce monde. Et si le monde n'a plus de repères pour comprendre l'histoire et ce qui nous arrive aujourd'hui, nous avons en Jésus-Christ les repères pour interpréter les événements qui arrivent. Alors, interpréter, c'est pas dire ça. Je vous parle de la joie. Je vous parle de la joie. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, nous dit le Seigneur. Paul a écrit son épître aux Philippiens, une des plus courtes épîtres du Nouveau Testament, sous la lumière glauque, provenant de la lumière d'une cellule romaine. Un homme plongé dans les bas-fonds de la vie aurait certainement le droit d'adresser une lettre de réclamation à la direction. Je vous lis un petit commentaire. Sûrement un homme battu et meurtri pour son choix de prêcher l'Évangile, aurait le droit de refouler ses émotions ou présenter sa version des faits. Une fois au moins, aucun d'entre nous ne blâmerait le grand apôtre Paul s'il choisissait d'être franc et exprimer que Dieu l'a déçu. La vie aussi est finalement le sort qui lui a été distribué. En fait, l'apôtre Paul, aucune mère ne voudrait un enfant comme l'apôtre Paul. Rejeté par tout son entourage, qui a été rejeté par les siens, mis en prison, et puis qui est mort à cause de l'Évangile. En fait, il y a beaucoup de mères chrétiennes qui auraient voulu avoir un fils comme l'apôtre Paul, ou qui voudraient. En fait, dans cette lettre courte écrite à une église inconnue qui existait il y a presque 2 millénaires, Paul utilise les mots « la joie » ou « la réjouissance » pas moins de 14 fois. Quant à nous, malheureusement, nous pensons qu'un seul spot de joie sur l'écran radar de la vie vaut une ovation debout de chacun conscient de notre présence. On se félicite jusqu'à se faire mal quand on arrive à chanter dans l'église malgré une prise de bec avec notre conjoint sur la route de l'église. J'ai quand même réussi à chanter un cantique. S'il y a une chose que nous pouvons apprendre de la vie de Paul, c'est que nos circonstances n'ont pas forcément besoin d'être une démonstration ambulante de la joie du ciel. Aujourd'hui, avec Paul, moi, je choisis la joie. Et vous ? Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, béni sois-tu, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur du ciel et de la terre. Tu as le monde entre tes mains. Tu as la vie, la mort entre tes mains. Et c'est toi, Seigneur, qui viens à nous, qui viens frapper à la porte de nos cœurs et qui nous invite à rentrer dans ta joie. La joie du salut, Seigneur, la joie d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie. La joie de savoir que rien ne peut nous ravir de ta main, Seigneur. C'est toi, le Seigneur des Seigneurs. Que peuvent nous faire les hommes ? Que peuvent nous faire les hommes ? Seigneur, nous voulons t'appartenir. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta présence. Nous voulons ouvrir nos cœurs à la joie que tu veux nous donner. Nous voulons, Seigneur, accepter l'épreuve que tu nous donnes en ce moment. À l'accepter, Seigneur, avec patience, à la supporter, à nous laisser transformer, Seigneur, comme par le feu, pour faire grandir notre foi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as toutes les circonstances entre tes mains, de chacune de nos vies, de l'Église, de cette ville de Lille, de ce pays, la France, Seigneur, et de ce monde qui semble partir en décrépitude. C'est toi qui diriges tout, Seigneur, que ton Église puisse être témoin de cette joie que tu veux donner à toute l'humanité, au nom de Jésus-Christ. Amen.